franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Il y a des hommes, il y a des femmes qui, paraît-il, ont la main verte. Il y a des hommes, il y a des femmes qui, paraît-il, ont la main lourde ou bien la main heureuse, les mains pleines par conséquent. Il paraît que certains ont le cœur sur la main. D'autres se battent à main nue et parfois n'y vont pas de main morte. Il en est même qui applaudissent des deux mains. Comme s'il était possible d'applaudir avec une seule, il y en a qui ont deux mains gauches ou alors les mains liées, tandis que d'autres ont les mains libres. Certains donnent des coups de main ou mettent la main à la patte quand ils n'ont pas un poil dedans. Et puis il y en a qui parlent avec les mains ou dont les mains racontent des choses qu'eux-mêmes ne disent pas. Et c'est apparemment le cas du président de la République. Hollande est candidat avec les mains. C'est le titre du papier que signe Serge Raffy dans les colonnes de l'Obs. Pour ses plus proches amis, plus aucun doute aujourd'hui, le chef de l'État sera candidat à sa succession. Et ce sont ses petites menottes qui le disent, ainsi que l'explique l'un de ses conseillers à l'Élysée, l'ancien maire de Quimper, le fidèle Bernard Poignant. Désormais, durant ses discours, François s'accroche à son pupitre avec ses deux mains. Il s'avance de tout son corps comme s'il voulait étreindre son auditoire. Et c'est un geste qu'il ne fait que lorsqu'il est en campagne. Et comme d'autres proches de François Hollande, Poignant est convaincu donc que le président de la République annoncera très bientôt sa candidature entre le 28 novembre, date de la désignation du candidat de la droite et du centre, et le 8 décembre, jour où le Parti Socialiste fournira la liste de ses candidats pour les législatives de juin, si l'on en croit ce conseiller. Donc, Hollande sera candidat, d'ores et déjà, ses mains le disent, et c'est un signe qui ne trompe pas.
Toutefois, à gauche, il en est d'autres qui pourraient éventuellement se laisser tenter par l'aventure.
On va
regarder leurs mains. Hein.
Pourquoi pas l'actuel ministre de la Défense? C'est du moins ce que croit savoir Nicolas Domenac. Il le dit dans Challenge. Les ambassades se multiplient en ce moment auprès de Jean-Yves Le Drian pour le pousser à se présenter à la présidentielle. Des députés bretons et d'autres lui répètent par ailleurs que Hollande est grillé, Montebourg inconsistant et que lui seul, avec sa popularité de granit, pourrait incarner une alternative solide face à la droite et à l'extrême droite. Soit croit Le Drian répond pour l'instant uniquement en citant le nom du Premier ministre. Ce qui sous-entend que François Hollande doit, selon lui, passer la main. Alors, Manuel Valls ira-t-il? Eh bien, selon Le Monde, il y pense de plus en plus. Dans le journal, Bastien Bonnefou revient sur l'intervention que le chef du gouvernement a faite ce jeudi à Berlin. Il était invité pour un forum économique durant lequel on lui a demandé de décrire le profil du meilleur candidat de la gauche pour 2017. Question un peu glissante, mais que Valls n'a pas écarté du revers de la main. C'est celui ou celle, a-t-il dit, qui permet de préserver le modèle républicain français, un modèle qui repose à la fois sur l'autorité et la bienveillance. Jusque-là, rien de suspect dans sa bouche. Mais il a précisé aussitôt que ce candidat idéal devait également remplir une autre condition, à savoir dire les choses. On sait que le Premier ministre a toujours fait ce qu'il appelle le langage de vérité, l'une de ses marques de fabrique, et certains parmi l'assistance ont donc vu là comme un autoportrait à peine voilé, ce que lui-même n'a pas nié. Je m'arrête, a-t-il dit, car je risque d'avoir des ennuis, il a conclu en s'esclaffant. Un signe qui ne trompe pas. Et à droite, qui se frottera les mains? La réponse sera demain soir.
Bah oui, puisque c'est demain qu'on connaîtra les résultats du premier tour de la primaire organisé pour la droite et le centre.
Et on ne sait pas si l'un des candidats l'emportera haut la main primaire. Le jour de vérité, titre Le Figaro, avec une photo des affiches de campagne des 7 candidats, photo de leur visage à la une du Parisien. Demandez le programme, c'est le jeu des 7 différences. Et le quotidien détaille donc les propositions de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire, Jean-François Copé, Jean-Frédéric Poisson et Nathalie Kosciusko-Morizet. J'ai cité les 7, vous lirez ainsi ce qu'ils préconisent.
C'est la femme en dernier, enfin bon.
Pour la fiscalité, le chômage, les retraites, la sécurité, l'éducation, la laïcité, visiblement l'environnement est passé à la trappe. Je l'ai cité en dernier car elle est en dernière.
D'accord.
Non pas dans les sondages mais dans le journal. Les points communs, les désaccords, c'est également ce que propose ce matin le Télégramme. Un comparatif détaillé et puis également ça et là le mode d'emploi de cette primaire. Comment voter, titre ainsi le courrier Picard, tandis que Paris Normandie pose à sa une cette question. Faut-il croire les sondages? Après l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis, c'est l'une des questions du moment. Faut-il croire les sondages? Et puis Faut y croire les médias.
Et c'est l'interrogation à la une de Libération.
Une interrogation latine. Media culpa depuis la victoire de Trump. Les journalistes américains sont sous le feu des critiques et nombreux aujourd'hui se remettent en question. Ils n'ont pas vu, pas entendu la colère monter dans le pays, projetant notamment leurs convictions morales sur des électeurs qui au final ont voté sur d'autres critères et donc désormais la plupart tentent de réfléchir à cette déconnexion. Pourquoi donc ce fossé entre le peuple et ceux qu'on surnomme les élites en France? Sur ce sujet, le débat fait rage également et d'ailleurs il n'est pas nouveau. Il y eut Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002, il y eut le référendum sur la Constitution européenne en 2005 et chaque fois donc on a entendu les mêmes choses, haros sur les élites qui ne comprennent rien à rien. Mais qui aujourd'hui pourrait nous donner une idée précise de ce que sont les élites? Se demande Bruno Frappa dans sa chronique de La Croix. Où se tiennent-elles cachées? Si on veut les éradiquer comme on rêve d'éradiquer les terroristes islamistes, il faut alors se dépêcher de lancer le combat, écrit-il. Fermons les facs, les grandes écoles, les cinémas d'art et essai. Fermons donc les laboratoires et tous les centres d'excellence et puis décrétons qu'à l'avenir, on choisira les plus mal formés pour faire de la politique, les plus mal lunés, les mal autrus, la pire espèce pour échapper à ce syndrome de l'élitisme d'où nous viendraient tous les maux de la République. Et le chroniqueur de conclure, plus d'élite, plus de soucis. Plus de librairies, plus d'artistes et plus de journaux tant qu'on y est. Que les élites se soient trompées, c'est une chose, mais je ne suis pas certain qu'un pays sans élite soit effectivement la bonne solution. Dans la presse, je vous conseille par ailleurs le reportage d'Anna Sylvestre Trainer dans Libération.
En Côte d'Ivoire, pour vivre gay, vivons cachés.
D'être condamnés à 3 mois de prison ferme pour homosexualité, outrage public à la pudeur, acte contre nature avec individus du même sexe. Et en appliquant pour la première fois une loi vieille de 20 ans, ce pays réputé progressiste ne fait plus désormais office de refuge en Afrique. En Côte d'Ivoire, les homosexuels désormais se cachent, on les traite de femmelettes, de démons, de déviants, on les accuse de se comporter comme des animaux et les agressions sont nombreuses. Vous les pédez, on va vous tuer un à un. A ainsi entendu Moussa, un jeune Nigérian qui, parce qu'il était homosexuel, s'était réfugié à Abidjan. Et ceux qui nous ont lancé ça l'ont ensuite attaqué à coups de couteau. Il est aujourd'hui dans un état critique à l'hôpital. Et puis allez, pour finir plus léger, Patricia, car il y a des bonnes nouvelles dans les journaux parfois, comme celle-ci dans les pages médias du Parisien. France Inter surfe sur de bonnes ondes, un record historique, ça se fête. Jeudi soir, après avoir découvert que France Inter avait passé pour la première fois de son histoire la barre des 6 millions d'auditeurs quotidiens, Laurence Bloch, la patronne de la station, a filé chez le coiffeur. Elle a suivi à la lettre le conseil qu'elle répète inlassablement à tous ses animateurs. Soyez punk. Laurence Bloch s'est donc fait teindre les cheveux en rouge, la couleur de la station.
Pas tous les cheveux, juste sur le devant, je vous ai déjà dit.
Un sacrifice capillaire à la hauteur de la performance en gagnant 600 000 auditeurs à la radio. La radio publique a chipé à Énergie la place de deuxième radio du pays. 600 000 auditeurs gagnés en un an. En semaine, le pic d'audience est autour de 8 heures. Le week-end, le pic d'audience est autour de 8h30. Vous voyez?
Il est 8h38.
Les micros qui frétillent, Patricia, c'est un signe qui ne trompe pas.
C'était la revue de presse, il me regarde si vous voyez son regard. C'était la revue de presse de Frédéric Pommier. À demain.
À demain.